Docteur Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou. Et comment on peut se passionner pour des morceaux de cailloux?
Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
Quel genre de chantier sommes-nous?
Je suis sûr que tu peux nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
C'est l'heure des pierres qui roulent sur Radio Campus Paris et ça tombe bien parce que ce week-end, c'est les journées nationales de l'archéologie. Et on se dit que pour une émission d'archéologie, ce serait pas trop mal d'y être. C'est le musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge, qui nous héberge cette fois-ci pour une dernière émission annuelle autour des pratiques de l'archéologie. Alors on a presque tout fait, hein. On est parti depuis le bout du bout de la chaîne, depuis la médiation de l'archéologie au public, ses liens avec le monde de la recherche, et on a compris qu'avant ce travail préexistait la question de la conservation du mobilier archéologique, et encore avant, celle de l'analyse et des restaurations. Tout ça pour arriver enfin aujourd'hui jusqu'à l'essence même de la pratique de l'archéologie, le terrain. Le fameux, le trop chaud, le trempé, le stérile, le pentu, bref, celui qu'on nettoie à coups de brosse à dents. Alors comment est-ce que cette première confrontation avec le terrain archéologique se fait? Qu'est-ce qu'il est? Quel est ce terrain? Une future autoroute? Les quais d'un grand fleuve ou même votre jardin? Et comment aborder chacun de ces espaces? On a une heure pour tout savoir des rapports que l'archéologue entretient avec son terrain d'étude et on la passe aujourd'hui avec Fanny Trouvé, archéogéographe au sein du service départemental d'archéologie du Val d'Oise, donc qui dépend du conseil départemental du Val d'Oise. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Aliénor Letouzé sera là également avec nous, docteur en archéologie préhispanique depuis peu, à l'université de Paris-Sorbonne, Paris 4, membre du centre de recherche sur l'Amérique préhispanique et directrice adjointe du projet Monte Alban, Cité Venado, au Mexique. Bonjour Aliénor.
Bonjour.
Léa et Henri m'accompagnent aujourd'hui dans cette belle salle Notre-Dame au sein du musée de Cluny, dont j'ai eu la chance de rencontrer la conservatrice en charge des termes antiques, Isabelle Bardias-Fonti, des termes incluses donc dans le parcours du musée et qu'on voit quand on arrive par le boulevard Saint-Michel. Elle m'a parlé de l'histoire de ces structures, leur découverte et leur redécouverte ayant généré leurs fouilles à travers le temps. On écoute ça tout de suite.
Bonjour Isabelle Bardias-Fonti, merci d'avoir accepté de vous entretenir avec moi pour les journées nationales de l'archéologie. Donc on est dans le musée national du Moyen-Âge, mais il y a aussi toute la partie antiquité dont vous vous chargez.
Je m'occupe de tout ce qui préside aux périodes les plus anciennes, ce qui pour le musée de Cluny signifie l'antiquité et également le premier millénaire de notre ère, le début du Moyen-Âge. Et je suis le conservateur en charge du site antique, les thermes de Lutèce qui sont dans le parcours du musée, mais aussi les vestiges extérieurs qu'on voit du boulevard Saint-Michel quand on passe à côté du musée.
De quand datent ces ruines? Qu'est-ce qu'elles sont et à quoi ça servait?
Nous sommes ici dans la salle froide d'un des établissements de bains publics gallo-romains construits lorsque Lutèce s'est développé, donc probablement dans le courant du 1er siècle de notre ère. Il y a une logique dans le fait que cette partie antique soit jointe à la partie du musée du Moyen-Âge. Cet ensemble a été singulièrement conservé tout au long de son histoire. Nous pensons, sans en avoir la certitude, que l'une des clés de cette conservation, c'est le remploi très très tôt des belles structures en élévation. Le soupçon nous en est donné par la trace dans des archives du XIIe siècle de l'appellation Palais des Thermes de Cluny, ce qui peut porter la mémoire d'un remploi palatial postérieur à l'utilisation de bains publics. Les abbés de Cluny sont propriétaires fonciers d'une grande partie des vestiges antiques et ils font ériger, s'appuyant sur les structures antiques, l'hôtel de Cluny que nos visiteurs peuvent encore admirer aujourd'hui. Si les abbés de Cluny n'avaient pas eu la bonne idée de faire des centres de stockage dans le frigidarium et le caldarium attenant, on n'aurait pas pu conserver les deux jusqu'au 18e. C'est parce qu'ils l'ont utilisé que c'est conservé. À la fin de la période d'occupation par les abbés de Cluny de leur hôtel médiéval, qui est sanctionné à la Révolution par une cessation de propriété, un marchand de biens se porte acquéreur de l'hôtel de Cluny et la partie antique est cédée à la ville de Paris et installe un dépôt lapidaire pour les œuvres issues, entre autres, des destructions à la Révolution ou à l'occasion des constructions urbaines du 19e, tout antique qui était trouvé, venait ici. Il faut maintenant attendre 1843 pour voir le destin changer à nouveau de cet ensemble sur proposition d'Edmond du Sommerard, fils d'un collectionneur qui s'était installé dans l'appartement des abbés de Cluny. Et son fils propose à l'État français de racheter l'hôtel de Cluny, d'être le premier conservateur du lieu, de céder par là la collection de son père. Mais il trouve cohérence au fait que l'État français négocie avec la ville de Paris l'obtention du dépôt lapidaire que constitue le frigidarium afin d'avoir un parcours qui reflète une large présentation des arts français de l'Antiquité à l'époque moderne.
Toutes ces personnes donc, qui réutilisent l'hôtel de Cluny, est-ce qu'elles vont faire des réaménagements et est-ce qu'il y a ce qu'on peut appeler aujourd'hui des fouilles archéologiques, mais en tout cas des redécouvertes des termes antiques à ces moments-là?
Évidemment, il y a eu des fouilles, et à ce, à plusieurs reprises, mais jamais menées dans une ampleur et dans une qualification scientifique comme on devrait pouvoir le faire pour avoir plus d'informations. À chaque fois, les fouilles se sont faites sous l'angle du ponctuel et de l'opportunité. On peut prendre comme exemple le percement du boulevard Saint-Michel, ce moment-là, mais également on peut parler pour le 19e siècle, au moment où se conçoit le square Paul-Painlevé, qui est face entre la Sorbonne et l'entrée du musée de Cluny. Des fouilles ont lieu qui mettent en évidence une zone probablement des shops et qui qualifient l'entrée supposée par le sud en arrivant du forum qui était à peu près à l'emplacement du Panthéon actuel sur le sommet de la montagne Sainte-Geneviève.
Entre ces fouilles-là du 19e siècle, qui j'imagine rentrent aussi dans les grandes reconstructions qui ont eu lieu grâce au baron Haussmann, et les fouilles d'aujourd'hui, quelles peuvent être selon vous les grandes différences qu'il y a eu?
Pour ce qui est du 19e siècle, on a la connaissance de certaines structures qui ont été consignées. On a la connaissance d'un objet sorti de terre, une lampe à huile, vraiment la découverte fortuite typique dans le cadre de la construction d'un bâtiment. Donc là, on est vraiment dans l'empirique et dans l'opportunité, parce qu'un objet est assez beau et qu'il est antique, de le conserver pour en gros le vendre à Edmond du Sommerard. Et puis le deuxième plan qui apparaît avec Monsieur Duval, universitaire, au milieu du XXe siècle, ce sont des repérages au nom de l'intérêt pour ce monument singulier qui correspond donc à l'un des trois termes repérés pour Lutèce, avec des observations qui n'ont pas été consignées comme on le ferait aujourd'hui, qui sont exactement ce que nous n'aimons pas quand on parle d'archéologie maintenant, ces espèces de motifs tachetés, de petites fenêtres aléatoires, mais qui, au travers des articles qu'il a publiés, éclaircit le terrain sur ce qui relève de l'antique ou de la reprise des réseaux de caves médiévales dans nos sous-sols. Et puis donc au XXe siècle plus récent, dans les années 90-2000, ça devient de plus en plus sérieux. Ça reste sous la contrainte de l'emprise de l'opération, mais tant la FAN qu'ensuite l'INRAP ont pu quand même mettre au jour des éléments importants. Une jolie découverte au moment où on a installé en l'an 2000 le jardin dit médiéval qui donne sur le boulevard Saint-Germain, un arrosoir parfaitement contemporain des abbés de Cluny, donc sans aller trop loin, on peut dire qu'il a servi au jardin des abbés également.
Le musée est actuellement en train de reconfigurer ses espaces. Est-ce qu'il y a eu des fouilles archéologiques?
Le musée de Cluny est évidemment, dans toute la richesse, mais également la difficulté d'être un musée dans un monument historique, partant, nous ne pouvons quasi rien faire et il faut bien pourtant penser à renouveler notre accueil. Donc, il nous fallait trouver une solution. Pour l'instant, il y a suivi et contrôle, information de la responsable du service régional d'archéologie. Mais s'il y avait nécessité, parce que le projet d'architecte oblige à une fouille, cette manière de fuir la fouille programmée, non parce qu'elle n'aurait pas d'intérêt, mais parce qu'elle n'est pas compatible avec la relative urgence qui était celle de notre projet, ne serait-ce que pour tenir les engagements d'accessibilité d'un musée comme le nôtre.
Voilà, donc une belle introduction à notre émission faite par donc Isabelle Bardiès-Ronty, que je remercie à nouveau de cette interview. Une introduction qui nous permet de comprendre qu'on est dans un lieu qui baigne dans l'archéologie. On a entendu parler donc là de découvertes fortuites, d'archéologie préventive, programmée, d'aménagement urbain et leur lien avec la fouille, de fouilles ponctuelles également liées à des opportunités. Mais aujourd'hui, comment est-ce que nous sommes confrontés à l'archéologie?
Bon, je vais aller planter quelques poires au fond du jardin. Oh, bah ça alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Léa, est-ce que tu aurais des pistes? Est-ce que tu as mené une enquête?
Effectivement, je suis allée à la rencontre de Philippe Fajon, qui est ingénieur d'études au sein du service régional de l'archéologie de Haute-Normandie, qui dépend de la fameuse DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et qui va nous donner quelques explications sur ce qu'il faut faire quand vous tombez sur des choses comme ça au fond de votre jardin.
Pour faire le plus simple, et c'est ce que prévoit la loi, puisque là on est dans les choses un petit peu réglementaires, le plus simple, c'est de prévenir le maire de la commune, qui normalement, lui, sait ce qu'il doit faire derrière. Très souvent, si on veut un petit peu être efficace, puis quand on découvre quelque chose dans son jardin, on peut avoir envie d'avoir des informations dessus. Le mieux, c'est de prendre contact avec le service régional d'archéologie, s'il n'est pas trop loin dans la région, ou bien le service de collectivité, s'il y a un service départemental d'archéologie, donc un service du conseil général, du conseil départemental, mais la personne qui devra de toute façon à un moment être avertie, et le plus vite possible, c'est le préfet ou la personne qui en dépend, puisque c'est le préfet qui va ensuite décider de ce qu'il faut faire des découvertes. C'est toujours sous l'autorité de l'État et donc du préfet que la gestion des vestiges archéologiques découverts de façon fortuite, c'est l'exemple que vous donnez, c'est le préfet qui va décider de l'avenir de ces vestiges.
Donc une découverte fortuite, c'est quand on tombe sur l'archéologie, mais est-ce qu'il y a des gens qui recherchent l'archéologie ?
Gérard, viens, je crois que j'ai quelque chose ici.
Alors j'ai aussi posé cette question à Philippe Fajon. Que faire quand on découvre quelque chose à l'aide d'un détecteur de métaux?
Alors là, c'est simple, c'est que si vous utilisez un détecteur de métaux en allant en forêt pour a priori trouver des objets archéologiques, vous êtes en infraction. Puisque la seule façon aujourd'hui d'avoir le droit d'utiliser un détecteur de métaux en plein droit, c'est d'y être autorisé pour des motifs scientifiques de recherche archéologique. Donc d'avoir une autorisation préfectorale pour le faire. Donc de participer à un groupe de recherche, à un travail, etc. Voilà. Sauf si c'est sur la plage pour trouver des objets perdus. Là, le cas est différent. Mais si vous êtes sur des sites archéologiques ou sur des zones où des découvertes archéologiques sont possibles, si vous n'êtes pas autorisé, vous êtes en infraction.
Et si on décide qu'on veut ou bien qu'on doit fouiller, comme par exemple quand il faut construire, comme ici au musée de Cluny, qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, je propose que l'on fasse passer le travail ici et puis là, et on installera un grand hall d'accueil là au milieu.
Mais monsieur, vous savez que l'on est près de la cathédrale ici. Vous ne craignez pas que l'on tombe sur des vestiges?
Alors, dans le cas d'un aménagement comme ça, un peu plus important, les procédures sont tout à fait différentes. Elles sont assez complexes et assez cadrées, comme nous l'explique Philippe Fajon.
Alors ça, c'est très cadré par la loi. Depuis la loi dite sur l'archéologie préventive, donc qui a été votée en 2001 et qui a été un petit peu modifiée fin 2003, appliquée en 2004, toute une série d'actes administratifs donc qui déclenchent des travaux, par exemple le permis de construire, par exemple le permis d'aménager, ou bien les enquêtes, les études d'impact dans le cadre d'une enquête publique, qui sont associées à une enquête publique, c'est ce qu'on va appeler, nous, en archéologie préventive, des faits générateurs, c'est-à-dire un acte administratif qui peut déclencher une intervention des services archéologiques. Donc déclencher ce qu'on va appeler une procédure d'archéologie préventive et qui est très cadrée par le livre 5 du Code du patrimoine, donc où les textes réglementaires et législatifs expliquent la façon de faire de la découverte ou bien de l'élaboration d'un projet d'aménagement jusqu'à la publication des vestiges éventuellement.
Donc, une procédure cadrée, on l'a bien compris, pour ce qui est de l'archéologie préventive. Mais l'archéologie préventive, on va en discuter pendant l'émission, c'est censé aller vite, parce que c'est de l'aménagement justement du territoire, mais il est possible d'aller plus lentement. Et c'est le cas pour ce qui est de l'archéologie programmée. On va faire un petit point avec vous, Aliénor, puisque vous fouillez à Monte Albán, hein, au Mexique, vous êtes chargé de la fouille. Comment est-ce qu'on fait de l'archéologie programmée? Qu'est-ce qu'il faut faire en amont et comment ça se passe sur le terrain?
Alors, en ce qui me concerne, c'est de l'archéologie programmée, mais plutôt à l'étranger. Pour fouiller, de toute façon, la difficulté n'est pas d'obtenir véritablement le permis auprès des autorités locales, donc en l'occurrence mexicaines, c'est un peu l'équivalent du SRA en France, c'est surtout d'avoir les financements. Donc nous, on est financés par le ministère des Affaires étrangères et puis le Mexique. Et voilà, une fois qu'on a le financement, c'est beaucoup plus facile d'aller fouiller. Et alors, en ce qui concerne, nous, notre programme, Siete Venado à Monte-Alban, c'est un petit site à côté du grand site de Monte-Alban qu'on connaissait déjà, qui avait été un petit peu cartographié. Donc, on n'a pas eu véritablement de prospection à réaliser, mais on peut lancer un projet de prospection, avec une station totale pour faire un petit peu de topographie, pour voir si on a un peu d'architecture et réaliser quelques sondages pour voir un petit peu la céramique, dater un petit peu et puis voir la densité de vestiges et voir si finalement s'il y a un site.
Donc c'est un chantier qui se fait en lien plus avec l'université.
Voilà, en l'occurrence c'est pour l'université.
Et les gens qui fouillent, ce sont donc des universitaires qui appartiennent à des labos de recherche?
Oui, oui, on est tous rattachés là en l'occurrence au CERAP, on a tous un centre de recherche.
Et donc comme beaucoup d'archéologues, on a été de jeunes archéologues, on a été donc des bénévoles sur des chantiers de fouilles quand on était jeunes. Fanny Trouvé, est-ce que vous voulez nous parler un peu de cette toute première expérience qu'on a tous, hein, on pourrait tous en parler, mais...
Alors ces premières expériences, c'est vraiment... on apprend les premiers gestes, on découvre beaucoup de choses. Ça permet aussi d'avoir un aperçu de beaucoup de techniques, beaucoup de périodes. On fait des chantiers sur 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines. Donc c'est vraiment un temps au départ où on peut découvrir vraiment ce que c'est que l'archéologie auprès de professionnels qui vous encadrent et qui vous forment et qui complètent en fait tout ce que vous apprenez après à la faculté.
Et qui nous donne envie d'aller
qui nous donne
plus
envie.
Loin ou pas. God, I'm moving all over town. Strictly biz, don't play around. Cover much ground. Getting paid by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day to play away. I can't get her out of my mind, yo. I think about the girl all the time, yo. East side to the west side. Pushing fat rides. Causing no surprise. She got chips in the stash, stacking up cash, fast when it comes to the gas. By no means average, someone she's got to have it. Maybe you're a perfect 10. I like the way you work it, no divinity. I gotta bang it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, no diggity, I gotta bag it up. I like the way you work it, oh, oh. She's got class and style, street knowledge by the mile. Oh baby, never act wild. Very low key on the profile. Some villains is a no. Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb. And lovers it curves. Don't freak what you heard. No way, no way, no way, no way, no way, no way, no way. On écoutait Chet Faker, No Diggity, une reprise des Blackstreet de 2012. On est toujours sur Radio Campus Paris 93.9 et on continue à parler du terrain archéologique. Donc on a vu comment on tombait sur l'archéologie et après, il se passe quoi? Comment est-ce qu'on prend la décision de faire une opération d'archéologie préventive?
Philippe Fajon nous expliquait tout à l'heure que pour le déclenchement d'une opération d'archéologie préventive est extrêmement cadré. Donc là, on va rentrer un petit peu dans les détails et voir concrètement comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'une opération archéologique peut être déclenchée.
Un acte d'aménagement peut porter atteinte à du patrimoine archéologique connu ou non connu. Donc c'est cette susceptibilité de découvrir des vestiges sur lesquels on va travailler. Quand on a un permis qui arrive, on regarde s'il y a une zone de susceptibilité, de risque, une sensibilité particulière. particulière. Si on pense que ça peut concerner aussi un collègue qui a une spécialité, on peut lui demander un avis. Si le risque archéologique nous paraît évident, on va déclencher cette procédure d'archéologie préventive en proposant au préfet la prescription d'un diagnostic archéologique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire diagnostic ? Ça veut dire je veux aller voir dans le terrain, je veux aller faire des trous pour aller voir s'il y a des vestiges, la nature des vestiges, profondeur d'enfouissement, état de conservation, tout ça dans un objectif simple. D'abord, avoir connaissance des vestiges éventuels et deuxièmement, savoir ce qu'il faut en faire si le projet d'opération va à son terme. Est-ce qu'il faut les fouiller ou est-ce que l'intérêt justifie simplement qu'on collecte un minimum d'informations ? Le diagnostic, c'est une séquence d'informations sur le contenu du terrain.
On parle donc de diagnostic. On se rend compte que ce n'est pas la même chose que la fouille. Fanny Trouvé, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce que Philippe Fajon vient de nous dire ?
Alors, comme l'expliquait Philippe Fajon, un diagnostic, c'est vraiment une phase d'évaluation où, sur un terrain où on pense qu'on a potentiellement des vestiges archéologiques, on va venir ouvrir une toute petite surface pour essayer de voir si oui ou non il y a réellement des vestiges archéologiques et si oui, s'il y a des vestiges archéologiques, qu'est-ce qu'ils sont, à quoi ils ressemblent, est-ce qu'on peut avancer de la datation, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire, est-ce qu'ils ont un intérêt scientifique.
Et donc, Aliénor Letouzé, comment est-ce qu'on fait clairement un diagnostic ? Est-ce qu'il y a des méthodologies particulières ?
Alors oui, justement, dans le projet en fait qu'on va établir en amont, il va falloir savoir exactement le type et le nombre de machines qu'on va commander et en l'occurrence comment ça fonctionne. En fait, l'appel mécanique, c'est le godet en fait de 3 mètres de l'appel mécanique qui va créer la tranchée et on va sonder 10% du terrain en réalisant des tranchées parallèles.
Le terrain qui va être aménagé.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et là, apparaissent quelques vestiges et il faut savoir, en l'occurrence, ce qu'on va fouiller pendant le diagnostic pour récupérer l'information. Et on va pouvoir, en fait, dater finalement la potentielle occupation et voir si, ou alors si c'est stratifié, si on a plusieurs types d'occupation. Et à partir de là, on va pouvoir, et ça c'est le SRA qui va prescrire ou non la fouille, parce que parfois on ne prescrit pas.
On en reparlera. Du coup, pour faire un diagnostic, il faut ce qu'on appelle un agrément. Tout le monde ne l'a pas. Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire pour l'avoir ? Qu'est-ce qui détermine le fait qu'on l'a ou qu'on l'a pas ? Et qu'est-ce qu'un agrément ?
Alors, un agrément, en fait, c'est une autorisation qui est donnée par l'État aux collectivités territoriales qui ont un service archéologique ou aux entreprises privées qui pratiquent de l'archéologie. Mmh. Cet agrément, en fait, elle valide le fait que dans la collectivité ou dans l'entreprise, il y a des gens qui ont les capacités scientifiques et techniques pour réaliser un diagnostic. Mmh. Donc, en fait, l'agrément est donné selon des périodes chronologiques. Mmh. C'est pour ça que certaines collectivités ne sont pas agréées pour toutes les périodes parce qu'elles n'ont pas dans les membres, les archéologues qu'elles ont, ces archéologues n'ont pas la spécialité sur toutes les périodes. Donc, par exemple, au service archéologique du Val d'Oise, aujourd'hui, on en est agréé du paléolithique à l'époque moderne.
Donc tout.
Tout. Voilà, on fait tout. Et c'est un agrément qui n'est pas à vie. Il est donné pour 5 ans. Et donc, il doit être renouvelé tous les 5 ans et aussi en fonction des mouvements des personnes.
Et donc, clairement, vous, par rapport au diagnostic, au Stavo, est-ce qu'il y a des choses que vous faites avant de faire le diagnostic ? Notamment, vous parliez de la carte archéologique.
Alors, avant de faire un diagnostic, au service archéologique, on a mis en place une procédure un peu particulière. On va faire des pré-études cartographiques, photographiques pour préparer en fait avant le terrain. On va aller regarder des cartes anciennes du 18e siècle jusqu'à nos jours pour voir un petit peu replacer en fait l'opération dans un contexte un peu plus large, regarder s'il y avait des routes qui traversaient par exemple l'emprise d'opération, est-ce qu'on est à côté de grands itinéraires routiers, dans la carte archéologique, qu'est-ce qui est important comme occupation que l'on connaît déjà autour, savoir s'il y avait un bois, par exemple, sur l'emprise qui va être sondée. Tout ça, ce sont des éléments qui vont aider le responsable d'opération, quand il va être sur le terrain, à gérer son opération, à implanter ses tranchées d'une certaine manière, par exemple, et derrière, à faciliter l'interprétation des structures qui va pouvoir sortir.
Et il y a ce qu'on appelle aussi les zones de saisine.
Alors, les zones de saisine, ce sont des zones dans lesquelles on va automatiquement saisir le SRA et derrière qui sont des zones qui sont validées par le préfet, donc dans lesquelles l'archéologie est quasi automatique, parce qu'on considère que ce sont des zones qui sont extrêmement importantes d'un point de vue scientifique, et donc il faut que tous les projets qui sont d'aménagement qui ont lieu sur cette zone fassent l'objet d'un suivi archéologique.
Et c'est ce qui se passe à Roissy.
Voilà, par exemple dans le Val d'Oise, c'est ce qui se passe sur la commune de Roissy, où vous avez l'aéroport de Roissy qui couvre une grande partie de la commune. Donc ce sont des grandes surfaces qui ont déjà été diagnostiquées, voire fouillées, et aujourd'hui ça continue, l'archéologie continue notamment dans le centre, l'ancien village de Roissy, et là c'est une mine d'informations sur des hectares et des hectares, avec une continuité chronologique qui est vraiment très intéressante.
Donc sur le terrain, l'opérateur, il est aussi il n'est pas tout seul, il est en lien donc avec le SRA, on l'a vu, mais il est aussi en lien avec l'aménageur du terrain. Quelles sont donc les choses qui peuvent être mises en place entre l'aménageur et l'opérateur? Aléna Le Touzé, vous m'avez parlé il y a peu de visites de chantier que vous avez pu faire avec l'aménageur.
Alors oui, justement, bon, le rapport avec l'aménageur, c'est un petit peu compliqué en soi, parce qu'on a des objectifs très différents. Alors on est tous les deux astreints, contraints par l'aspect financier et temporel. Tout le monde a des délais.
Il faut que ça aille vite.
Voilà. Pour l'aménageur, il faut qu'on aille très vite. Et donc parfois, on peut avoir, quand vraiment il y a beaucoup de matériel qui sort, on peut avoir des délais quand l'aménageur est assez compréhensif. Et puis après, bon, c'est vrai que comme on n'a pas les mêmes objectifs, effectivement, l'aménageur, lui, on l'embête un petit peu. Mais il faut quand même se rappeler que pour le préventif, c'est grâce à eux qu'on peut autant fouiller.
Et donc Lydia, justement, a voulu en savoir un peu plus à propos du rapport qui s'établit entre l'archéologie et l'aménageur, notamment à partir de cette fouille dont vous avez peut-être entendu parler, une fouille qui a eu lieu il y a quelques mois dans les sous-sols du supermarché Monoprix sur le boulevard Sébastopol. Et pour cela, eh bien, elle a notamment été à la rencontre de Marie-Christiane Casala, qui est directrice de l'INRAP pour les régions Centre et Île-de-France.
Ces derniers temps, aux 20h, l'archéologie, ça a pas mal ressemblé à ça. Breaking news.
Around 200 skeletons have been unearthed under a Paris supermarket after workmen extending the shop's basement.
Según la hipótesis de los arqueólogos que encontraron los restos, se trataría de víctimas de la peste.
Znaleźli 200 szkieletów w podziemiach paryskiego supermarketu Monoprix, Rambourg, Sébastopol.
Sous les rayons de ce supermarché, un mystère intact. Le magasin devait agrandir ses réserves, mais au début des travaux, des archéologues ont découvert ces squelettes sous leurs pinceaux.
Pour les journalistes, il n'était plus question que de découvertes.
Découvertes étonnantes.
On découvert.
Macabre hallazgo.
Du coup, on pouvait se dire que pour un aménageur, une découverte, ça ressemblait à ça. Pourtant, si on en croit l'INRAP, une découverte archéologique, ça se passe plutôt comme ça.
En général, le processus ne part pas d'une découverte. Lorsque des travaux affectent le sous-sol, les aménageurs déclarent les travaux, les permis de construire seront instruits par les services de l'État. Donc, en fonction des données de la carte archéologique et d'autres données documentaires, le service régional de l'archéologie va décider de prescrire ou pas un diagnostic. Sur la base de ce diagnostic, le préfet de région va ou pas prescrire une fouille.
La plupart du temps, les aménageurs sont donc les premiers étonnés de ce qu'on découvre. Ils ont néanmoins des privilèges, ceux par exemple de visiter en premier le chantier.
Oh,
Ah.
Il nous arrive également de faire visiter les salariés de l'entreprise. Donc c'est aussi des voilà, on peut aussi participer à la communication interne de l'entreprise.
Après, évidemment, toutes les découvertes ne suscitent pas forcément le même enthousiasme. Il est vrai qu'une découverte de 200 squelettes morts d'une épidémie dans une fosse commune, ou tout venant, ça lui semble un peu moins intéressant qu'un coffre rempli de pièces d'or.
J'ai deux réactions. J'ai du personnel qui est très curieux et très intéressé par ce qui se passe. Et puis, on est quand même sur des sépultures. Donc, j'ai une certaine partie du personnel qui, elle, est, disons, ne va pas voir.
Mais justement, l'INRAP est aussi là pour accompagner.
En complément des opérations de fouilles qui sont prescrites, l'INRAP a une mission de service public de valorisation. Donc on accompagne les aménageurs dans la valorisation des découvertes qui sont faites sur les terrains qu'ils aménagent. Donc après, ça se fait de manière différente selon qu'il s'agit d'aménageurs privés, d'aménageurs publics. Hein. Pour des aménageurs publics, on contribue à la connaissance de leur histoire. Donc c'est en général des choses qui les intéressent. Voilà. Les aménageurs, même les aménageurs privés aussi, on peut les aider à valoriser le fait que grâce aux fouilles qu'ils ont financées, ils ont financé la connaissance du patrimoine pour la population et la connaissance scientifique.
Et le chantier dans tout ça ?
Je crois que l'essentiel, encore une fois, c'est qu'on s'inscrive bien dans le calendrier des travaux. On veille à s'inscrire dans le calendrier des aménageurs. Notre métier, c'est de documenter ce que les aménageurs vont détruire par leurs travaux d'aménagement. Donc nous, on va intervenir pour le détruire avec un petit peu de méthode et en conserver les traces documentaires pour la postérité et pour la recherche scientifique. Aujourd'hui, donc sur le Monoprix, on est en phase étude, puisque le chantier, c'est une chose. Et justement, pour ces impératifs de rapidité et de libération des terrains, on a démonté méthodiquement donc les corps, puisqu'à Monoprix, c'était un cimetière, enfin plus exactement les squelettes, et on va les étudier. Et donc ça va prendre un peu de temps.
Affaire à suivre donc pour le Monoprix, où les travaux ont repris en attendant que les 200 squelettes de ces sous-sols livrent enfin leurs secrets à l'INRAP.
Merci beaucoup Lydia pour ce super petit carnet sonore qui nous montre bien que une opération archéologique, c'est souvent un petit peu embêtant pour un aménageur, mais que quand les choses sont bien pensées et ont le temps de bien être pensées, l'archéologie préventive, l'INRAP en fait peut essayer de minimiser au maximum les conséquences pour l'aménageur.
Donc, on a parlé du diagnostic. Le diagnostic est passé, mais c'est pas fini. Enfin, pour être plus clair, ça l'est pas forcément. À la suite du diagnostic, il y a un rapport qui est rédigé par l'opérateur et qui donne les résultats de l'opération. Allez, Nord Le Touzé, vous en avez rédigé pas mal des rapports de diagnostic. On y met quoi dedans ?
Eh bien, absolument tout ce que vous avez trouvé. Il faut vraiment, c'est pas un souci de transparence. Il va vraiment falloir publier toutes les photos, tous les descriptifs du moindre fait archéologique que vous rencontrez et beaucoup de listings aussi, tous vos listings de photos, de prélèvements, etc. que le SRA ait toutes les informations en main.
Donc effectivement, lorsque le diagnostic est terminé, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs résultats peuvent être obtenus et donc Philippe Fajon nous explique tous les cas de figure que l'on peut rencontrer.
On va envisager quatre cas de figure assez simples. Le premier cas de figure, c'est le diagnostic qui a été fait. Il n'y a pas de vestiges archéologiques de repérer dans la parcelle diagnostiquée. Le terrain est libéré, comme l'on dit, de toute contrainte archéologique et l'aménageur est très content. Ça, c'est le premier cas le plus simple. Le deuxième cas qui est à peine plus compliqué, c'est qu'il y a des vestiges archéologiques. Ils sont intéressants à être conservés ou à être fouillés et on va travailler avec l'aménageur pour qu'il modifie son aménagement
et pour que les vestiges ne soient pas atteints par les travaux. Ça s'appelle dans ce cas-là une procédure un petit peu particulière. On va faire en fait presque comme si on prescrivait une fouille archéologique, c'est-à-dire une deuxième phase de travaux, mais on va faire un arrêté préfectoral avec modification de la consistance du projet. Donc on va rendre le projet d'aménagement réalisable et compatible avec la protection des vestiges. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est le plus défavorable, on va dire. Il y a des vestiges archéologiques la présence des vestiges est tellement importante que le projet s'arrête. Ça, c'est un phénomène quand même qui arrive assez régulièrement. L'aménageur décide d'abandonner son projet puisqu'il va falloir envisager une phase de fouille qui n'est pas compatible avec son projet ou qui techniquement va être irréalisable. Donc on a l'abandon. Et puis on a le cas, je dirais, archéologiquement le plus complexe et sans doute le plus intéressant, celui où les résultats du diagnostic nécessitent une seconde phase de terrain, c'est-à-dire la fouille des vestiges. Globalement, c'est pas seulement libérer le terrain pour permettre l'aménagement, c'est aussi en tirer toute la connaissance. Donc ça demande une mise en place de moyens souvent importants, et donc un deuxième arrêté d'opération archéologique qui là va être dénommé arrêté d'opération de fouille et qui va être organisé avec l'aménageur du projet. Donc qui demande une procédure et une préparation un petit peu plus longue, un petit peu plus complexe, tant financièrement que techniquement et scientifiquement.
Alors lorsqu'il est décidé donc de prescrire une opération de fouille archéologique, les services de l'État vont établir ce que l'on appelle un cahier des charges. Et Philippe Fajon va nous expliquer à quel point est-ce qu'il considère que cette étape est importante d'un point de vue scientifique.
Une prescription de fouille archéologique, c'est avant tout un cahier des charges scientifique et technique qui va permettre à l'opérateur archéologique qui va intervenir sur le terrain de créer son projet scientifique d'intervention. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur ce que je vais rédiger, par exemple, pour créer ensuite son projet scientifique. C'est vrai que là, on mobilise beaucoup de connaissances, connaissances locales, connaissances bibliographiques, nos connaissances scientifiques personnelles. Et là, il est indispensable donc que les personnels qui instruisent ces dossiers soient du personnel scientifique et de recherche compétent pour avoir une vision qui ne soit pas liée à l'aménagement, mais soit vraiment liée à l'envie de connaissance du patrimoine, de connaissance archéologique. Le cahier des charges est l'élément pour moi le plus important. C'est quand même à partir de ce cahier des charges que l'opérateur archéologique va choisir les questions qu'il va se poser sur le terrain. Il va choisir aussi sa façon de travailler, et c'est à partir de ça qu'on aura ou pas les résultats attendus. Donc un cahier des charges raté, c'est-à-dire qui n'explique pas clairement quels sont les enjeux scientifiques du terrain, c'est clair qu'après, il ne faut pas s'attendre à des fouilles qui donneront des résultats extraordinaires et à une publication à la foulée.
Donc c'est l'aménageur qui va se diriger vers l'opérateur pour cette fouille. Fanny Trouvé, comment est-ce qu'on est approché en tant qu'opérateur par un aménageur? Quel est le dialogue qui s'instaure entre
Alors,
vous deux?
Plus exactement, en tant qu'opérateur, on va recevoir le cahier des charges et l'appel d'offres en fait, qui est fait. Donc, en tant qu'opérateur, on va répondre à cet appel d'offres ou ne pas y répondre, c'est un choix. Et l'aménageur va recevoir ses réponses à son appel d'offres et c'est lui qui va choisir la réponse qui lui semble la plus appropriée. C'est son choix, lui.
C'est une réponse qui est plutôt liée à des aspects financiers ou connaître ou pas la personne avec qui on va travailler?
Alors, effectivement, souvent, c'est lié à des aspects financiers. Ça peut être celui qui va avoir la réponse qui sera la moins onéreuse. Mais effectivement, en tant qu'opérateur de collectivité, on noue quand même des liens avec les aménageurs qui opèrent régulièrement sur notre collectivité, notre territoire. Et on va établir aussi des liens qui peuvent favoriser le choix ou bien une certaine continuité sur des espaces où on intervient régulièrement. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on intervient régulièrement sur un terrain ou qu'on connaît l'aménageur, c'est nous qui serons choisis pour réaliser la fouille.
Donc cette mise en concurrence dont vous parlez, entre différents opérateurs, dont vous, dont l'INRAP également, elle existe et elle existe encore plus, notamment depuis la loi dont parlait Philippe Fajon, lorsque l'agrément de fouille a été aussi ouvert aux opérateurs privés. Ça change quoi pour vous, au jour le jour, par rapport à ces cahiers de charges?
Alors, c'est vrai qu'on reproche assez souvent aux opérateurs privés de baisser le coût des fouilles pour pouvoir remporter un marché, puisque effectivement, comme vous le dites, on est en concurrence. Donc, la présence d'opérateurs privés sur le territoire fait qu'effectivement, on est nous aussi obligés de réduire au maximum nos coûts pour être concurrentiel tout simplement.
Et est-ce qu'il y a, par exemple, des cas de diagnostic que vous avez pu opérer que vous n'avez pas eu après lorsqu'il y a eu prescription de fouille ?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous avez des exemples ?
Alors, par exemple, sur la ville de Cergy, on était intervenu sur plusieurs diagnostics qui étaient jointifs, sur plusieurs années de suite, avec aussi des petites emprises de fouille qui avaient été prescrites sur lesquelles nous avions remporté le marché. Et le dernier marché, là, a été remporté par une société privé.
Donc ça change quoi
Alors, ce qui est...
Pour le projet.
Ce qui est dommage, c'est que sur des espaces où on intervient régulièrement, ça permet en fait d'avoir un suivi par l'opérateur, que ce soit nous ou que ce soit l'INRAP. Même si ce n'est pas forcément le même responsable d'opération, on connaît le terrain, on sait ce qu'on y a trouvé, on a vraiment un suivi qui peut se faire. Et donc c'est dommage pour ce cas-ci de ne pas avoir remporté la fouille qui nous aurait permis de compléter nos connaissances.
Shakes, Don't Wanna Fight, un titre qui est issu de leur dernier album. On est toujours sur Radio Campus Paris et on continue avec nos deux intervenantes, Aliénor Letouzé et Fanny Trouvé. On a bientôt fini, hein, la fouille là, elle est terminée. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le travail de l'archéologue s'arrête à ce moment-là ? Fanny Trouvé, quel est le traitement que vous faites de l'information issue de cette fouille ?
Alors une fois que le rapport est rendu, on va venir le dépouiller et enregistrer toutes les informations dans la carte archéologique justement dont on parlait au départ. On va enregistrer sous forme plutôt synthétique, mais savoir si on a trouvé un site, si oui, qu'est-ce que c'était comme site, comme type de site et quelle datation il avait. Ce qui fait qu'après, on aura cette information-là cartographiée et on pourra savoir pour les prochaines interventions que là, on a eu des nouvelles informations ou des informations inédites ou des compléments d'informations.
Et ça, vous le faites pour les fouilles, mais aussi pour les diagnostics ?
Oui, bien sûr.
Et donc, tout est reporté et ça sert pour la recherche, quoi, des
oui.
gens qui viennent après. Donc, justement, ces gens qui viennent après, ils ont accès ou pas, vous allez nous le dire, Aliénor Letouzé, à un rapport de fouille. Est-ce qu'il est différent, le rapport de fouille, d'un rapport de diag, déjà ?
Alors, globalement, dans l'essence même du rapport, non, mais il est différent parce qu'il est beaucoup plus épais, beaucoup plus dense.
Ouais, plus long aussi,
voilà,
sur
c'est
une
ça.
Période plus longue.
Voilà, on a beaucoup plus de vestiges à enregistrer. Comme le diagnostic, lui, n'est que sur 10% du terrain et qu'ensuite, quand on intervient pour la fouille, on va décaper, pour le rural, par exemple, on va décaper l'ensemble de l'emprise et essayer de fouiller tout ce qui s'y trouve, là, évidemment, on a beaucoup plus de vestiges. Donc, il est plus long, il est beaucoup plus précis.
Et l'important, par rapport à des rapports de fouilles qu'on peut faire pour du programmé, c'est de montrer quoi dans un rapport de fouilles préventif ?
Je dirais que c'est d'être encore plus exhaustif sur les listings, sur vraiment le détail de l'information. Nous, sur le programmé, on peut intervenir plusieurs années de suite, plusieurs campagnes de fouilles vont pouvoir se faire sur la même structure. Elle n'est pas détruite, elle est vouée à être restaurée et conservée. Pour le préventif, c'est voué à être détruit. D'accord. Donc là, il faut vraiment ne louper aucune information. On n'a pas le droit à l'erreur.
Et donc, ce rapport de fouille que vous avez rédigé, il est tout propre, il est imprimé. Qu'est-ce qu'on en fait ? On le met où ? Et est-ce qu'il est archivé et on ne peut plus le voir ? Ou est-ce que des gens comme nous, comme les gens qui sont aussi aujourd'hui au musée, peuvent aller les consulter ?
Alors, ils sont au SRA. Et on peut effectivement venir les consulter en prenant rendez-vous. Mais le public, il me semble, oui, est autorisé à les consulter.
Et c'est plus généralement des chercheurs ou des gens qui habitent près du lieu, par exemple ?
Non, ça va. Ça va être quand même des chercheurs qui sont le plus intéressés.
Le travail, c'est clair pour nous, il continue après, puisque pendant l'exécution de la fouille, il va y avoir toute une mission de contrôle scientifique sur le terrain qui va se faire, être régulièrement en contact avec le responsable scientifique de l'opération de fouille, la personne qui représente l'opérateur sur le terrain et qui encadre la fouille. Donc être régulièrement en contact, l'encadrer, éventuellement lui donner, si ce n'est des ordres, du moins des consignes ou des conseils qui lui permettent de rendre sa fouille plus performante. Très très important pour nous, c'est qu'une fouille, c'est aussi un rapport d'intervention, un rapport de fouille. Ce rapport de fouille sera évalué, donc d'abord évalué par les collègues du service, mais surtout par la commission interrégionale pour la recherche archéologique. Il va falloir que nous, on l'intègre et on voit les apports réels ou les choses qui ont été oubliées pour se faire un avis. N'oublions pas qu'une fouille archéologique qui se contente simplement de mettre les vestiges, on le dit toujours comme ça, mais qui se contente toujours de mettre juste les vestiges de la fouille dans des cartons ou dans des caisses, c'est une fouille qui n'est pas terminée et que l'opération terminée, elle doit non seulement faire l'objet du rapport de fouille, mais aussi servir à la connaissance, donc aller à la publication ou à l'information du public. C'est pour ça que tous les opérateurs savent bien maintenant, connaissent bien les enjeux de faire des publications et d'intervenir dans des manifestations, des colloques et de monter des expositions avec les aménageurs. Donc non, le travail est loin d'être terminé une fois que la fouille archéologique préventive est engagée.
Bon, on sert à quelque chose en fait en archéologie. Je vais vous laisser la parole. Maintenant, je me tourne vers le public du musée de Cluny, puisqu'on n'est pas tout seul. On enregistre en public depuis près d'une heure. Donc, si vous avez des questions pour nos intervenants, allez-y.
Je voulais juste savoir si les normes, enfin les techniques étaient les mêmes en France, en Europe et à l'étranger, puisqu'il y a des fouilleurs et des fouilleuses et des archéologues qui travaillent à l'étranger. Je voulais savoir si finalement le travail était le même ou les contrôles étaient les mêmes ici et ailleurs.
Alors, pour le Mexique, par exemple, pour le reste de l'Europe, je peux moins répondre, mais pour le Mexique, ils ont aussi un service d'archéologie préventive, donc qui est sujet au même contrôle. Peut-être que effectivement, les techniques vont être un peu différentes parce qu'on va moins utiliser les gros engins mécaniques, les pelles, etc. Mais la législation est globalement la même.
Oui, il y a un domaine particulier qui est le domaine maritime. La France a 3200 km à peu près de côte. Parfois sur des zones, évidemment, il y a des pays voisins. Et là, la question que j'avais à poser, madame l'a déjà posée un petit peu. À ce moment-là, on est obligé de travailler en collaboration avec les pays voisins. Vous dites que la législation est à peu près la même. Est-ce que ces services-là sont plus récents que les institutions françaises?
Oui, pour le Mexique, c'est plus récent, effectivement. Ouais.
Vous avez dit que la législation est à peu près la même en Europe. Est-ce que c'est dû à l'action de l'Union l'Union européenne en tant qu'institution, ou bien une collaboration entre les institutions des différents pays?
Alors, on a tous les pays ont des législations qui sont quand même un petit peu différentes. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'Europe et de l'UE, il y a eu des conventions, comme par exemple la convention de Malte en 94, si j'ai bon souvenir, qui a institué en fait des principes, voilà, par exemple, notamment ce qu'on appelle casseur-payeur. D'où le fait que, par exemple, en France, le coût de l'archéologie préventive est supporté par les aménageurs, puisqu'entre guillemets, les aménageurs sont les casseurs.
Oui, il y a tout un système de financement qui existe en France, effectivement, oui. Organisé autour de l'archéologie préventive.
Après, ce qu'il faudrait peut-être souligner, c'est qu'en France, on a une archéologie qui est très encadrée par l'État, et c'est important, ce qui n'est pas vrai dans d'autres pays. Par exemple, en Angleterre, c'est beaucoup d'entreprises privées qui viennent faire des fouilles. Pour le Japon, c'est aussi une archéologie publique, mais qui n'est pas du tout encadrée comme elle l'est en France. En Grèce, l'encadrement de l'archéologie a été fait depuis le 19e siècle, parce que la Grèce regorge de sites archéologiques qui sont tout de suite visibles et qu'il fallait protéger aussi le patrimoine, pas juste le patrimoine enfoui, mais le patrimoine bâti. Et en France, les premières lois qui concernent l'archéologie datent des années 40, 41 pour être plus précise. Donc c'est pas si vieux que ça.
Oui, donc ça conditionne aussi du coup les histoires différentes selon les pays, selon ce qu'on a pu trouver. Donc l'histoire dépend pas forcément de ce qui s'est vraiment passé, mais de ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est un peu de l'archéologie du présent, quoi.
Donc je vous ai posé d'abord la question des recherches sous-marines, en dehors du fait que bien sûr c'est particulier parce qu'il faut plonger. Est-ce qu'elles posent des problèmes particuliers?
Alors je sais pas si nos intervenantes ont travaillé dans le domaine maritime. C'est l'ERASM qui s'en occupe à Marseille. Est-ce que vous avez lien avec ce genre de fouilles?
Alors, maritime, c'est beaucoup dire, mais par exemple, au Val d'Oise, on a des cours d'eau. Et donc, on a aussi des équipes de plongeurs qui font de l'archéologie. Alors, cette archéologie-là, c'est de l'archéologie programmée. Donc, ils sont autorisés par le service régional de l'archéologie pour un temps défini, avec une autorisation personnelle, à fouiller en sous-marin. En l'occurrence, c'est des plongeurs qui vont fouiller. Donc, les techniques sont vraiment différentes. C'est-à-dire que sous l'eau, vous ne pouvez pas venir avec votre truelle et nettoyer ça tranquillement. Vous êtes avec ce qu'on appelle une espèce de petit aspirateur, et donc vous allez dégager des structures et vous allez remonter à la fois du sédiment pour pouvoir le trier après sur terre et faire aussi un relevé qui va être différent sous l'eau. Vous allez installer des quadrillages un peu spécifiques et vous allez aussi faire des relevés. Les techniques sont vraiment... Et puis alors, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que vous ne passez pas le même temps à fouiller une structure sur terre qu'une structure qui est dans l'eau, quoi.
Pour rebondir sur ce que vous disiez justement à propos des plongeurs qui ont des autorisations spéciales, je suppose qu'il y a aussi d'autres spécialistes qui justement étudient avec les archéologues sur le terrain. Est-ce que chaque opérateur a chaque spécialité représentée au sein de ses services, ou est-ce que vous faites appel à des services extérieurs comme des bureaux d'études ou
Alors évidemment, dans les services, toutes les spécialités ne sont pas représentées. Beaucoup d'archéologues ont entre guillemets une double casquette, c'est-à-dire qu'ils sont spécialisés dans une période, et après ils ont une spécialité, on va dire, technique. Par exemple, au service archéologique du Val d'Oise, on a une personne qui est anthropologue et qui en même temps, sa période de référence, c'est le néolithique. Il y a une autre personne qui s'occupe plutôt de tout ce qui est âge du fer, et elle est céramologue aussi. Alors pour les spécialités qu'on n'a pas, effectivement, on va aller demander des expertises à d'autres personnes, vers d'autres collectivités, vers l'INRAP, vers des gens qui ont justement la connaissance spécialisée pour ça.
Voilà, parce que justement l'INRAP possède beaucoup, beaucoup de spécialistes et qui vont faire les analyses de tout le matériel qu'on va récupérer sur le terrain. Et je pense qu'à l'INRAP, globalement, tout est représenté, il me semble.
Vous êtes une grosse structure et puis vous êtes là depuis un petit moment.
Oui, c'est pour ça, oui.
Moi, j'avais une petite question par rapport au diagnostic dont on a parlé en milieu d'émission. On parle de ce qu'on a retrouvé dans les tranchées, mais on n'a pas parlé de ce qu'on ne retrouvait pas. Et est-ce que ça peut influer sur la prescription?
Ça peut poser problème, effectivement, parce que comme on va fouiller 10% du terrain par tranchée, il y a effectivement tout ce qu'il y a entre les tranchées. Et j'ai un cas précis, on avait fouillé à Montévrin, donc à la base, on intervenait pour essentiellement une forge. Et lors du décapage, on s'est aperçu qu'entre deux tranchées, on en est tombé sur un balnéaire, donc un petit bâtiment thermal qui n'était pas très grand puisqu'il faisait une quinzaine de mètres de côté, mais avec un plan très intéressant qui reprend justement un peu les plans impériaux romains, et également un espèce de cellier avec des dépôts monétaires au fond, pas mal de monnaie. Et donc tout ça n'a pas du tout été détecté au diagnostic parce qu'on ne peut pas tout tout sonder.
Et à ce moment-là, c'est perdu ou c'est renfoui et...
Alors, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie finalement de notre projet, de notre cahier des charges, hein, quand on arrive sur le terrain, la fouille du balnéaire et du reste n'est pas prévue en fait. Donc il faut, par rapport au devis, il faut intégrer ça dans le temps de fouille qu'on a pu. Là, en l'occurrence, ça a été prescrit, mais le risque, c'est effectivement de passer à côté de certaines choses très intéressantes entre deux tranchées et de ne pas avoir la fouille, de ne pas voir la fouille prescrite.
Et donc de rater des éléments qui seraient importants pour l'histoire. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Non. Bon, s'il n'y en a pas, je pense qu'on peut conclure. Je vous remercie à tous d'avoir été là aujourd'hui. Donc, on n'oublie pas que ce sont donc les Journées nationales de l'archéologie tout le week-end. Donc, ça ne fait que commencer. On introduisait vendredi matin 3 jours de Journée nationale d'archéologie. Donc, vous pouvez aller dans des musées d'archéologie ou pas. des musées qui ne sont pas forcément d'archéologie. Le programme est donc sur internet, sur le www.journee-archéologie.fr. Et puis, puisqu'on est là donc au musée de Cluny, je vous invite à venir voir l'exposition qui est encore en cours jusqu'au 27 juillet, Sculpture Swab, pardon. Très belle exposition. Vous avez encore un petit peu de temps. Et puis, n'oubliez pas que c'est bientôt l'été, et tout l'été, comme d'ailleurs tous les week-ends de l'année, il y a des visites, donc des thermes antiques, des visites conférences tout l'été à 14h. Ça s'appelle Un été au musée, tous les jours à 14h et à 15h30. Puis des rendez-vous d'étudiants comme le 1er novembre ou le 6 décembre qui s'appelleront Un dimanche avec les étudiants. Donc je vous invite à aller voir tout ça sur le site du musée. Je vous remercie de votre présence. Je vous dis à l'année prochaine, hein, parce que c'était la dernière de l'année. On se retrouve en septembre ou en octobre, ça dépendra de la grille. Et je vous remercie encore et à très bientôt. Bon été à vous. Hung her head and said, son. It was a third of September. That day I'll always remember. Yes, I am. Cause never the day that my daddy died. I never got a chance to see. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Well, he let us happy. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was home.
Papa called himself a jackal. Tell me he's never took Papa to the grave.
Folks say Papa put big bottles to pay his bills.
Hey, Mama.
folks say I never was much on thinking. Spent most of this time chasing women and drinking.
Mama looked up with tears in her eyes and said,
And when he died, all he left this was alone.